Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Aujourd'hui, Martin rencontre quelqu'un qui n'a pas laissé son handicap visuel ralentir ses projets de vie, Yannick Gagnon-Carbonneau.
Notre saison est vraiment très bien commencée, le mois de septembre aussi par la même occasion. On essaie de garder la même fréquence d'entrevues cette année, bien qu'on ne sait pas trop qu'est-ce que l'avenir nous réserve, hein, la fameuse pandémie, tout ça. Hein. Mais pendant que tout fonctionne, on est là. Et aujourd'hui, on a un invité qu'on, théoriquement, on aurait dû recevoir à la fin de la saison passée. La date était fixée et tout, mais à cause de la pandémie, tout a été annulé. Mais ça se reprend aujourd'hui. Mon invité aussi, il a un très long nom. Je vais essayer de ne pas me tromper en le disant. C'est Yannick Gagnon-Carbonneau.
C'est exactement ça.
Bon, alors bonjour Yannick.
Bonjour.
Merci de t'être déplacé. Tu viens de Québec.
Oui, je viens de très loin.
De très loin.
À peine, mais oui, de Québec, Québec la ville. Donc, voilà.
Mais tu m'avais dit que tu venais régulièrement à Longueuil.
Ouais, ben, comme on en parlera sûrement tantôt, moi j'étudiais à Sherbrooke, donc par la force des choses, je me suis fait des amis qui habitent un peu partout à Québec. Donc, nécessairement, on leur rend visite parfois, là, surtout dans des contextes comme ça où est-ce que l'école est arrêtée. Donc, ce qui m'emmène à Montréal pour voir des amis de Montréal, justement.
Et je le répéterai jamais assez à l'émission, puis tu vas sûrement pouvoir le confirmer, hein, un réseau social, c'est important.
Ah, c'est très important, très important.
Et surtout quand on se promène d'une ville à l'autre, de Sherbrooke à Québec, c'est quand même important, de se faire des connaissances puis des amis un peu partout sur notre passage.
Exactement, c'est essentiel.
Là, on est déjà rendu au présent. Moi, j'aimerais ça qu'on retourne dans le passé un peu, parce que le but de l'émission, c'est de faire un portrait de la personne. Toi, premièrement, est-ce qu'on peut dire en quelle année tu es né à peu près?
On peut le dire. Je suis né en 1997.
Aïe, aïe!
Ouais. C'est vieux, hein? Je sais.
Je parlais avant qu'on commence du verglas qui s'est passé en 98. Tu dois même pas te souvenir de tout ça, c'est incroyable.
Je l'ai connu par procuration, par mes parents, mettons. On m'en a parlé, là, puis on entend parler un peu partout, mais non, je n'ai pas vécu.
Ouais, parce que ça revient dans les médias de temps en temps. Hein,
ah ben oui, puis surtout dans des contextes comme ça, justement, avec la pandémie, ben on reparle des grands moments qui ont marqué le Québec, là, d'une autre manière, mais c'est ça, on entend parler souvent du verglas.
Et ce qui me joue un tour avec toi un peu, c'est que tu as quand même une voix mature, hein? Tu as une voix grave.
J'ai une voix mielleuse.
Radiophonique.
Radiophonique, suave.
Radio non, de mais... CKOI, moi je dirais.
Oui, exactement. J'ai raté ma vocation, je vais changer de branche.
As-tu déjà pensé faire de la radio?
Non, mais par exemple, j'ai travaillé pendant longtemps chez Tim Hortons, puis j'adorais le service au volant. Moi, je parlais, puis je m'amusais avec le micro. Là, c'était mon moment. C'était mon émission de radio à moi.
Toi, parler dans un micro, là, même...
Ah oui, bonjour, bienvenue chez Tim Hortons. Est-ce que je peux prendre la commande? Ça, j'adorais.
Est-ce que les gens, après ça, ils te voyaient? Est-ce qu'ils faisaient des sauts?
Oui, on riait au micro, puis là, ils arrivaient à la fenêtre, puis... Comment, c'est toi? Ben oui.
Un petit jeune, là.
Oh, oui, exact. Un bon service client, là. On aimait bien ça.
Parce qu'on, j'imagine qu'il y en a qui n'aimaient pas ça, parler dans ces micros-là.
Ouais, il y en a plein qui n'aimaient pas ça.
Même en tant que client. Là.
Ah oui, surtout en tant que client, il y en a qui n'aimaient pas ça. Il y en a qui n'aimaient pas ma bonne humeur le matin à 5h du matin.
Ils trouvaient trop de bonne humeur?
Ah, trop de bonne humeur.
Eux autres, ils n'avaient pas encore bu leur café.
Ah, ils n'avaient pas encore bu leur café. C'était évident. J'avais hâte de leur donner.
Hey, mais c'est cool quand même. Ben, c'est cool. D'un sens, là.
Ah oui, moi, je m'amusais, là.
Et puis d'un autre côté, il me semble que de se faire servir son café du matin par quelqu'un qui n'est pas de bonne humeur.
Ah oui, bien là, on parle des rabat-joie.
Pas plus intéressant.
Mais il y en a beaucoup là, qui adoraient ça. Il y en a beaucoup qui m'adoraient.
Hey, on s'éloigne oui. Encore, mais on va en reparler, c'est ah, sûr. Oui. Alors, naissance en 1997. Eh oui. Hey, moi, je n'en reviens pas quand j'entends des choses comme ça. J'étais au travail social, là, au cégep, à ce moment-là. Puis j'avais déjà perdu 3-4 ans entre ma première tentative de cégep et la deuxième. Ça qu'on s'entend-tu que
on s'est pas croisés. Là.
Il n'y avait pas de danger qu'on se croise. C'est ça. Et tu es né où? Est-ce que tu es né à Québec?
Oui, je suis né à Québec, dans la ville directement. Je suis né où est-ce que j'ai vécu finalement toute ma vie. Donc.
Famille nombreuse?
Deux parents, deux frères, un plus jeune, un plus vieux. Donc, famille...
L'enfant du milieu. Ouais. Et le long nom, c'est que tu portes le nom de ton père et de ta mère?
Oui, les trois enfants, on porte le nom de nos deux parents.
OK.
Oui. Ben, à ce qui paraît, c'était un peu la mode dans le temps de mon frère, mon frère plus aîné. Puis, ben, mes parents voulaient garder le même nom pour chaque enfant.
Oui, ben, ça évite des questions. Hein,
ben, oui, exactement.
Quand quelqu'un qui connaît toute la famille dit « Ah, ben, pourquoi un porte tel nom? »
C'est ça, on ne voulait pas faire de chicane, mais...
C'est que, en plus, toi, ton prénom, il y a un Y, un K, je pense, aussi.
Oui, il y a bien des... Puis il y a un seul N.
Est-ce qu'il ben oui, c'est vrai.
Oui, je suis bien unique dans la vie.
Est-ce qu'il te donnait plus de temps pour faire tes examens? Je me dis, en première année, là, juste écrire ton nom sur la feuille.
Souvent, au primaire, je trichais. J'écrivais Yannick Gagnon. Je laissais faire le Carbonneau.
OK.
Puis, en cours de route, ben, je me suis dit, c'est important, c'est mon nom. Fait que je le mets maintenant.
C'est qu'on l'écrit au complet, ouais. Et voilà.
Ça dépend. Quand la ligne est petite, des fois, je me limite à Gagnon, -C, Gagnon.
Oui, il y a moyen d'abréger un peu.
Ah oui, puis, c'est ça.
Puis aussi, bah, ouais, tu sais, à l'école, à un moment donné, ils savent t'es qui, de toute façon.
Bah oui, ils connaissent.
Quand on a des papiers plus formels à remplir, bien là...
Sur mon passeport, j'utilise les deux, là, mais à l'école, des fois, je m'en permets plus.
OK. Là, je m'amuse avec ces questions-là.
Ah, pas de problème.
Parce que tu es jeune aussi, puis je sais que je vais pas te fâcher avec ça, certain.
Non, pas à tout.
Et là, bon, l'enfant du milieu, qu'est-ce que tu as comme souvenir d'enfance? Est-ce que tu étais un enfant actif? Est-ce que tu...
Ben, je pense que oui. Je pense que j'étais un enfant... tu sais, j'ai jamais été un enfant gêné, un enfant timide, du moins pas... ce que je me rappelle. J'ai toujours été un enfant qui aimait ça se tenir au courant de tout, qui aimait ça pas se mêler de ses affaires, qui aimait ça... Puis ça super positivement, là, dans le sens que c'était pas méchant, mais dans le sens où est-ce que j'étais pas dans ma bulle en étant enfant. Là. J'aimais ça avoir des amis.
T'étais curieux?
Oui, j'étais curieux.
Ça fait que tu voulais connaître, savoir les choses.
Exact.
Poser des questions.
Ah, oui. Puis j'aimais ça avoir l'attention. Là. J'aimais ça me donner en spectacle un peu. Là. J'étais ce genre d'enfant-là.
Plus que les autres enfants de ta famille, tu dirais?
Ah oui, que les enfants de ma famille, oui, je pense que oui.
Puis que des enfants en général?
Oui. Okay. Oui, je pense que oui.
OK. Est-ce que tu as souvenir de je sais pas, soit de gens que ça tombait sur les nerfs ou de gens qui se faisaient comme un plaisir de t'expliquer des choses ou de t'inclure dans des conversations d'adultes ou des trucs comme ça?
Ben certainement. Ben, tu sais, je pense que les gens que ça énervait un peu, je pense que mes profs rentrent là-dedans, là, les enseignants, soit qu'ils m'adoraient, soit qu'ils m'haïssaient. Là. C'était toujours ça. Soit je prenais trop de place, soit j'étais amusant. C'était toujours ça.
Parce que ça dérange, hein? Ça peut déranger le fonctionnement
ben, oui.
De la...
Ben oui, puis tu sais, moi, j'étais un enfant justement curieux. Ben, j'étais un enfant curieux, un enfant qui adorait apprendre et tout, mais en même temps, qui apprenait vite, qui apprenait bien, je crois. Fait que, tu sais, moi... en classe, je m'amusais, tu sais, alors que...
Oui, puis ça te retardait pas d'agir comme ça, dans le fond.
Absolument pas. Puis même des fois, tu sais, je faisais ça plus parce que je pense qu'on s'attardait sur des choses que je comprenais un peu déjà. Fait que, tu sais, moi, je m'amusais, là. J'étais comme, ben, je peux passer à autre chose, puis je faisais mes affaires.
Donc, tu étais bon à l'école?
Ouais, je pense que j'ai toujours été bon à l'école, puis j'aimais ça, probablement, c'est parce que j'étais bon à quelque part. Tu sais, quand on a de la facilité, on aime le milieu, là. Fait que je pense que, ouais, j'aimais l'école, puis j'étais bon à l'école.
Ben c'est parce que ça enlève tout un poids quand même.
Ben, exact.
Hein? Quelqu'un qui aime pas l'école, qui aime pas apprendre, mais qui est obligé d'y aller pendant X nombre d'années.
Exact.
Et ça peut être lourd, là, pour lui, pour cette personne-là, puis pour l'entourage aussi.
Tout à fait, j'en doute pas, j'en doute vraiment pas.
Donc, j'imagine pas de difficulté à te faire des amis non plus.
Non plus, mais tu sais, j'étais pas, j'étais jamais le... T'sais, j'ai jamais été le cool, le plus populaire ou des trucs comme ça, parce qu'en même temps, j'étais aussi étiqueté souvent comme étant plus intellectuel, là, plus...
OK, ouais.
J'étais un mélange des deux, là. T'sais, j'ai bien vécu ça, là, mais j'étais un mélange des deux. T'sais, l'intello, mais tannant en même temps.
Puis côté sportif, moi...
Ah, zéro.
Zéro?
Ah oui, je vais t'arrêter tout de suite, là.
Zéro?
Zéro plus ou
moins. Pas compliqué, zéro.
Ah, zéro.
Je t'arrête tout de suite.
Quand on parlait des jeunes qui n'aimaient pas l'école, que c'était dur d'y aller, moi, c'était les cours d'éducation physique, là. T'sais, c'était... Oh, C'était plate.
Mais bon, tu sais, l'éducation physique, je sais pas c'était combien de fois, une fois par semaine, deux fois par semaine?
Oui, c'était à petite fréquence, là. Ça, c'était correct.
C'est ça, c'est que c'est moins pire que de dire quelqu'un qui aime pas le français, qui aime pas les mathématiques.
Ah oui.
Mais c'est mal perçu quand même, quelqu'un qui aime pas les sports, qui aime pas l'éducation physique? Ou
Ben, c'est pas mal perçu, mais souvent, tu sais, ça dépend dans quel... je pense que ça dépend dans quelle catégorie que t'es. Ben, pas catégorie, mais ça veut dire, moi, j'étais un petit garçon. Puis souvent, les petits garçons, ils aimaient bien l'éducation physique. Fait que, tu sais, des petits garçons, j'étais souvent, tu sais, comme le gars qui aimait pas les éduques, ou le gars qui était pas bon, ou le gars qui passait le ballon à l'autre équipe juste pour le fun parce que mon ami était dans l'autre équipe. Moi, je comprenais pas l'affaire de compétition, puis j'aimais pas ça. Tu sais, j'étais le genre d'ami plate, là. Qui passait le ballon à l'autre juste pour le fun tandis qu'il était dans l'autre équipe,
t'sais. OK. Tu
J'étais là pour m'amuser.
C'est ça. Puis parce que tu étais un peu obligé aussi. Sinon,
oui, exactement.
Sinon, tu aurais fait autre chose.
Ben oui.
Primaire, ça, secondaire, ça se poursuit de la même façon un peu?
Pareil. Ouais. Sauf que je ne passais pas le ballon à l'autre équipe, là. Au secondaire, je commence à comprendre la game, mais toujours intellectuel. Je n'aimais pas nécessairement l'éducation physique. Toujours le même genre, là. Intellectuel, mais un peu tannant, mais pas sportif.
Ça, ça a continué, ça aussi, en classe, là, d'être celui qui voulait un peu, encore une fois, peut-être se faire remarquer. Puis,
oui, celui qui veut l'attention.
L'attention.
Je ne l'ai pas dit pendant longtemps, mais là, je l'assume. Là, j'étais celui qui voulait l'attention.
Ben, c'est pas évident de se faire dire qu'on veut attirer l'attention.
Ben, je trouve, ça a du positif. Oui. Moi, à ce moment-là, au secondaire, vers la fin du secondaire, je faisais de l'improvisation. J'ai fait de l'art dramatique beaucoup, donc... Tu sais, moi, j'aimais ça, là, un peu avoir l'attention, finalement.
Ouais, mais pas gêné non plus.
Non, c'est ça, j'étais pas gêné. Mais c'était pas irrespectueux. C'était toujours, tu sais, il y a des gens pas assez gênés, il y a des gens qui sont pas gênés. Ben, moi, je suis juste pas gêné. Tu sais, je suis à l'aise devant un groupe, je suis à l'aise avec des personnes. Puis, mais tu sais, c'est ça. Mais avec les profs, mettons, j'étais respectueux.
Ouais.
C'est ça.
Mais sauf que là, tu sais, quand tu te diriges vers l'art dramatique, vers l'impro, oui. c'est ceux qui ont des aptitudes à ça qui vont se lancer là-dedans. Là. Ça fait au moins, tu as pu te défouler un peu là-dedans, j'imagine.
Ben oui, exact. Comme quelqu'un d'hyperactif qui se défoule en éduc, ben moi, je me défoulais en art drame, puis en art dramatique, puis en impro.
Oui. Et tu étais bon là-dedans, j'imagine? Est-ce que tu...
Oui, ben objectivement, je pense que oui. Là, je pense que j'étais à ma place, finalement.
C'est ça. Oui. Parce que encore là, comme je disais, c'est un peu ceux qui se sentent des aptitudes pour ça qui vont aller là-dedans.
Exact. Mm-hmm. Tu sais, j'étais avec du monde un peu comme moi aussi, là, donc...
Aussi, ouais.
Oui. C'était pas la gang de gars sportifs là, qui comprenaient pas pourquoi je lançais tout croche mon ballon. Tu sais, c'était...
Mais quand tu disais qu'en éducation physique, là, tu donnais plus le ballon à l'autre équipe, tout ça, mais est-ce que tu as pris un certain plaisir plus dans les sports plus tard?
Ben, tu sais, j'ai pris un plaisir plus vers les sports, comme, tu sais, moi, je suis, on me voit pas, là, mais, tu sais, je suis grand, mince, là.
J'ai vu ça quand même, t'es assez grand.
Oui, j'étais assez grand, un bon 6 pieds 2, mince, tu sais, j'ai pas l'allure sportive, mais tu sais, je suis bon à la course, je suis bon, tu sais, j'ai des grandes jambes, là. Fait que
c'est
course,
ça, les sports que ça implique de...
Le cross-country, mettons, ça, je suis correct. Mais tu sais, tout ce qui est ballon, on dirait que j'ai pas de dextérité, pas de coordination. Le ballon va tout croche. Le moineau part d'un bord. Je vais vraiment, à ce moment-là, en tout cas, c'était pas glorieux. Pas à m'acharner. Je vais en impro.
Et c'était quoi tes matières fortes à l'école?
Matières fortes, certainement français. J'ai toujours aimé le français, ce qui est assez hors du commun souvent. Là. C'est pas la matière qui revient le plus souvent quand on pose la question à des gens. J'adorais le français, j'aimais bien l'histoire, les mathématiques, j'aimais pas vraiment ça, pas plus qu'il faut en tout cas. J'aimais les sciences, mais...
OK, c'est que t'aimais les sciences, mais pas trop les maths.
Ouais. Ben, j'aimais les sciences dans ce qu'on apprenait qui nous servait dans la vie de tous les jours. T'sais, j'aimais le concret de la chose. Les mathématiques, je trouvais ça abstrait, j'ai pas un esprit cartésien. T'sais, j'aime ça partir dans tous les bars, essayer, puis... T'sais, fait que moi, l'algèbre, ça me parlait pas plus que ça. Les graphiques, ça m'ennuyait. T'sais. C'est un peu ce genre-là.
Et forcément, ça enligne quelqu'un pour son choix de vie.
Ah, certainement.
Et toi, à quel moment tu as su qu'est-ce qui t'intéressait de faire mettons après le secondaire?
Ouais. Ben, quand j'étais au secondaire, moi, j'étais convaincu que je m'en allais prof de français.
Ah oui, prof!
Justement, j'aimais l'école, j'aimais ce que ça apportait aux gens, j'aimais j'aimais l'environnement, mais tu sais, ça, en même temps, j'avais juste connu l'école quand j'étais au secondaire. On ne connaissait pas d'autre chose. Donc, moi, je voulais m'en aller prof de français ou je pensais au droit parce que j'aimais l'image qu'on avait de l'avocat. Mais c'était assez abstrait comparativement à un prof de français que je savais exactement c'était quoi. Donc, moi, à ce moment-là, je pensais à aller prof de français assez jeune.
OK. Et est-ce que t'as, ça s'est concrétisé? Qu'est-ce que tu as fait quand il est venu le temps?
Je ne suis pas prof de français à
non,
ce jour.
Non, c'est ça, il me semblait non. Que non.
En fait, vient le cégep où est-ce que je m'en vais commencer un DEC en littérature et création au cégep de Sainte-Foy à Québec. Donc ça, c'était pour moi pour me diriger en enseignement du français ou en droit parce que ça m'ouvrait les deux portes à ce moment-là. Moi, j'avais tout de suite exclu les sciences les sciences naturelles. Parce que ça m'intéressait.
Ouais, puis on se doutait que tu n'allais pas choisir quelque chose qui
allait te lancer. J'ai jamais été du genre à mettre des choses de mon côté seulement pour m'ouvrir des portes. Là. Je me suis pas pris les maths fortes parce que j'aimais pas ça. Puis même si ça m'avait ouvert des portes, je ne l'ai pas pris. J'ai pas pris chimie physique parce que ça m'ennuyait. Je voulais pas ça.
Tu savais que ça allait, tu n'allais pas t'en aller dans quelque chose de connexe à ça. Là.
Non, je savais que j'allais pas m'infliger ça pour rien. Fait que je me suis vraiment. Je me suis vraiment concentré sur les sciences un peu plus sociales. Les sciences sociales, parce que je savais que ça me rejoignait un peu plus. Je voulais être avec des gens. Puis c'est ça. Puis rendu au cégep, c'est ça. Je savais que je m'en allais soit en enseignement du français pour l'université, soit en droit à l'université. Donc, c'est pas mal mes deux chemins d'horizon. Là. Puis est venue l'annonce du diagnostic au cégep, ce qui est venu un peu changer les choses en partie. Là.
Parce que ça s'est produit pendant ta première année de cégep?
Pendant ma deuxième.
Pendant la deuxième?
Ouais. Okay. En fait, pendant ma seconde, oui, parce que c'était un pré-universitaire, donc j'avais 2 ans à faire. Puis, pendant l'été, en fait, entre mes 2 années de cégep, à ce moment-là, c'est là que j'ai eu une perte de vie. Une perte de vie.
Si tu as eu une perte de vie puis tu l'as retrouvée, là, dis-nous comment.
Exact, parce que j'ai bifurqué, je voulais dire une perte de vision.
Oui, je comprends. Hein?
Une perte de vision. c'est ça. Donc, une perte de vue assez brutale dans l'été. Là. Donc, ce qui est venu quand même, veut pas changer les autres idées, parce que je m'imaginais mal, moi, enseigner le français en étant malvoyant. J'imaginais mal un contexte de classe régulière, un peu dans ce genre-là. Comme ça. Le droit, je m'étais dit, oui, ça, c'est toujours possible. Par contre, j'avais peur du droit parce que je m'étais dit, c'est un milieu hyper conservateur, c'est un milieu qui a énormément de lecture, beaucoup de papier. Tu sais, moi, à ce moment-là, j'avais vraiment l'image qu'on s'en fait dans les films, là, les gros bouquins, puis le marteau, puis tu sais, l'image cliché, mais très, très papier, là, très des gros livres, puis des trucs comme ça. Puis ça me faisait bien peur.
OK. Est-ce qu'on peut revenir sur l'été? Oui. Donc, tu as eu une perte de vision subite.
Ouais.
Tu n'avais jamais eu d'autres des symptômes de rien qui pouvait laisser présager ça avant?
Oui, en fait, moi, il faut comprendre que je faisais de l'astigmatisme. Quand j'étais depuis mon secondaire à peu près. Là. Fait que moi, j'avais jamais été habitué à une vision un peu plus basse. C'est à peine si je voyais les lettres floues un peu des fois, je mettais mes lunettes, c'était corrigé. Puis là, depuis, tu sais, je dirais janvier de cette année-là, de ma première année de cégep, tu sais, je voyais un peu moins bien. Tu sais, je devais toujours fermer un œil un peu pour bien voir parfaitement et tout. Mais moi, j'étais convaincu que c'était parce que mes lunettes étaient plus ajustées. Puis je devais avoir un rendez-vous chez l'opto.
OK. Puis là, avec une nouvelle lunette, ça se réglerait.
Exact. Puis c'est allé assez vite après parce que c'est resté comme ça un bon, peut-être 2 mois, là, assez à juste, tu sais, devoir fermer un œil des fois parce que j'étais fatigué des yeux en fin de journée, des trucs comme ça. Puis là, j'allais voir un opticien qui m'a référé à un autre opticien, qui m'a référé à un centre avec un ophtalmo. Qui m'a référé ensuite à un autre ophtalmo, qui m'a référé à un neuro-ophtalmo, finalement.
OK, donc là, toutes ces références-là...
Ça a pris quelques mois, là.
Ils ne comprenaient pas ce qui se passait, là.
Non, c'est ça, ils ne comprenaient pas parce que ma vision était plus faible, mais rien à voir à aujourd'hui, là. Mais ma vision était un peu plus faible, mais il n'y avait rien dans mon œil qui l'expliquait, finalement, à ce qu'un opticien pouvait voir avec son
déplacement habituel. Oui, c'est ça. OK. Donc, on t'a référé à plusieurs endroits.
Ouais, pour finalement atterrir chez un neuro-ophtalmo. Une neuro-ophtalmo, finalement, à l'Enfant Jésus à Québec. Puis elle l'a décelé assez vite. Elle en a déjà vu quelques-uns dans sa carrière. Fait qu'elle s'est dit, Yannick, c'est peut-être, mais on ne le sait pas encore, il faut attendre les analyses de sang, mais c'est peut-être une neuropathie optique héréditaire de Leber. Donc, elle m'a expliqué la maladie un peu, c'était quoi, mais sans trop, parce qu'elle ne savait pas encore si j'avais ça ou non. Fait que pourquoi m'inquiéter pour rien? Mais à ce moment-là, il faut remettre, moi j'avais commencé en janvier à peu près à moins voir, mais c'était loin d'être majeur. Puis, mais à ce moment-là, j'ai été en mai, à la fin de l'année scolaire. Puis à ce moment-là, il fallait vraiment que je ferme un œil pour bien écrire ma dissertation. Puis j'écrivais tout croche sur mes lignes.
Oh là là, OK.
C'était rendu plus faible, vraiment plus faible. Puis c'est ça. Puis elle, à ce moment-là, c'est ça qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, je crois que c'est une neuropathie optique héréditaire de Leber, une maladie rare, j'en ai vu très peu. Ben, je peux pas dire certainement, mais ça s'enligne pour être ça. Elle dit, tu vas le savoir, soit si l'analyse de sang arrive bientôt, dans quelques jours, ou tu vas le savoir si la vision chute brutalement. Parce que, je sais pas si tu en as déjà rencontré des gens qui avaient une neuropathie, là, je pense que oui.
Oui.
À l'émission, c'est ça. Mais souvent, on parle d'une perte brutale de la vue en 3 semaines d'un œil, puis l'autre œil suit dans 85% des cas, je crois, en tout cas, du moins ce qu'on m'a dit. Fait que c'est souvent...
C'est vraiment rapide, là.
Oui, oui, c'est vraiment rapide. Puis la maladie fait en sorte, le profil type pour le développer, cette maladie-là, bien, premièrement, c'est génétique, mais c'est à 18 ans, l'âge charnière des... Puis c'est des jeunes garçons de 18 ans. Mais tu sais, il y en a dans plein d'autres cas, dans d'autres situations. Mais c'est vraiment commun qu'un jeune homme va le développer à 18 ans. Fait que c'est quand même un âge charnière dans la vie, là. C'est quand même un âge que beaucoup de choses se décident et tout.
Ben oui, c'est... il aurait pu choisir un autre âge que ça.
Exactement. Quand même. Je sais pas c'est qui a choisi, mais... C'est
très mauvais choix.
C'est ça, très mauvais choix. mais c'est ça. Fait que tout ça pour dire que là, ma neuro-ophtalmo, elle m'a dit, ben tu vas le savoir si ça descend brutalement, ou tu vas le savoir si l'analyse de sang arrive.
Ça veut dire que les analyses de sang, c'était long avant que ça arrive?
Ben moi, ça a été long parce que, tu vois, elle m'a dit ça en fin mai. Là, on était à peu près, je pense, le 25 mai. Je m'en rappelle parce que le 28-29, je partais en Europe. Fait que, tu sais,
okay.
C'était assez un drôle de timing pour devenir aveugle, légalement aveugle, malvoyant. Fait que ça, c'est un drôle de timing. Puis, tu sais, l'analyse de ça, je pense qu'on l'a eu en début juillet. Là.
Eish, OK.
Ouais. Je sais pas ce qu'il explique exactement. Je sais qu'il devait l'envoyer, ça se faisait pas à Québec pour la maladie. Fait que je sais qu'il l'a envoyé ailleurs, puis ça a pris un certain temps. Mais c'est ça, il y a eu un certain délai. Là. Puis je ne sais pas si l'été, c'est plus long. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un en vacances à quelque part là-dedans. Là, mais...
C'est possible. Mais en tout cas, elle s'attendait à ce que ça puisse être long aussi, de la façon qu'elle t'en parlait.
Exactement. Mais tu sais, de la manière qu'elle m'en parlait, moi, elle m'a dit « Tu ne vas pas en Europe. » Elle dit « En tout cas, du moins, je ne te le conseille pas parce que tout peut arriver. » Puis moi, je me suis dit « Ben non, je m'en vais en Europe. » Parce que j'avais un voyage de prévu avec le cégep. Puis je faisais un voyage d'architecture, un peu là, d'histoire de l'art. On allait visiter l'Italie pendant un mois. Puis moi, je m'étais prévu un autre mois avec une amie pour l'Espagne. Donc, moi, j'y tenais à ce voyage-là.
Mais là, quand elle disait que tout pouvait arriver, ça voulait-tu dire que tu aurais pu perdre la vue complètement, mettons, pendant ce voyage?
Non, mais c'est certainement... Tu sais, la neuropathie optique héréditaire de Leber, on ne perd pas la vue complètement avec ça. On tombe en basse vision assez sévère au niveau de la vision centrale. Dans le fond, il y en a qui vont jusqu'à la perdre quasi totalement. Mais on garde toujours la périphérie. Donc, ouais. La vision périphérique, au pire, c'est ça. Moi, elle m'a dit, le pire qui peut arriver, c'est que tu deviens malvoyant au point de plus voir la vision centrale. Mais c'est parce que la vision centrale, c'est beaucoup. Là,
c'est déjà énorme. Ouais.
C'est que tu te débrouilles bien avec une vision périphérique quand tu es habitué, quand tu es adapté.
Tandis que là, en voyage puis tout ça.
C'est ça. Mais là, moi, à ce moment-là, je m'étais dit... Mais tu sais, moi, à ce moment-là, je faisais pas la nuance entre légalement aveugle, aveugle, malvoyant.
Ben, c'est vision. Normal, c'était pas un milieu dans lequel tu étais.
Tu sais, le médecin dit, ben, t'as un trouble aux yeux. Ben, finalement, c'est au nerf optique, là. C'est pour ça qu'il ne décelait pas dans l'œil directement. C'est vraiment au niveau du nerf optique, une atrophie. Donc, moi, je comprenais rien à ça du tout. Fait que là, elle m'a dit, t'es mieux de parler en voyage, t'es mieux d'annuler parce qu'on sait pas ce qui arrive. Puis moi, j'étais bien entêté. J'étais comme, ben, si je vois plus, ben, au moins, j'aurais vu l'Italie. Tu sais, j'étais bien.
OK. C'est que toi, c'était clair que tu y allais?
Oui, c'était clair que j'y allais. Moi, c'était clair, certain. Mes parents étaient pas très, très chauds à l'idée. Mon entourage était pas très, très chaud à l'idée. Mais à ce moment-là, moi, je l'avais pas dit à personne pour pas stresser le monde en voyage. Je l'avais dit à un professeur avant de partir en voyage à l'aéroport. Ouais, c'est ça, tout. Mais tu sais, je voulais pas qu'il y ait de barrière parce que je savais que moi, personnellement, je m'aurais pas empêché de le faire. Fait que je voulais pas que quelqu'un m'empêche de le faire. Puis j'étais comme, au pire, ça sera mon problème. C'est très égoïste.
Puis t'avais 18 ans, t'avais le droit de décider.
Ben oui, exactement. Ça, je me suis dit. Je me suis dit, hey, ça doit être pour ça, c'est tombé à ce moment-là de notre vie. Parce qu'à un moment donné, t'as le droit de faire tes choix. Fait que, tu sais. Mais c'est ça. Fait que moi, je voulais vraiment partir. J'avais par contre avisé aussi mon ami qui était avec moi pour la suite du voyage après l'Italie. Je me disais peut-être que je vais devenir aveugle. Tu sais, elle se demandait, elle était comme ben voyons.
Mais ça doit faire drôle quand même de se faire dire ça. Si...
Ben oui, exactement.
Hein? C'est comme.
Bon, et puis je me rappelle, on était assis dans un petit restaurant à l'aéroport. Puis là, elle m'a dit ben là, à quel point tu ne vois pas. J'ai dit ben tu sais, en ce moment, je vois pas beaucoup le tableau des affichages au bout, là. Tu sais, à quelques dizaines de mètres, mettons. J'ai dit ça, je le vois pas très bien.
OK.
Mais j'ai dit, à part ça, je vois bien, tu sais, si c'est proche de moi, des trucs comme ça. Tu sais, j'avais un peu de misère. À... Fait qu'elle, je pense que je l'ai banalisé un peu. Tu sais, j'ai dit, ben non.
Ben, t'as mis si quelque chose de loin pour qu'elle dise, bon, c'est pas si.
C'est ça. Pire. Mais à ce moment-là, c'était vrai que je voyais pas bien ça, alors que je voyais bien ma main à 6 pieds, mettons, à 6 pouces même de mon visage. C'était vrai ce que je disais, mais je le banalisais un peu, dans le sens que c'est pas si grave. Tout. Mais ça pouvait devenir grave à tout moment, on savait pas. Fait que c'est un peu de vivre dans l'attente.
Mais là, de toute façon, pendant le délai qu'il y a eu, t'as pas eu le... C'était pas la maladie qu'elle te disait, de toute façon? Que...
Oui.
Ouais, c'était
oui,
ça.
Oui, finalement, j'ai eu le diagnostic avant le diagnostic parce que dans la dernière semaine de mon voyage en Italie, la portion Italie, parce que j'avais aussi la portion Espagne qui suivait, dans le mois, trois semaines après qu'elle m'a annoncé ça, j'étais dans le train, je regardais un livre, puis c'est... Puis je voyais plus le livre. J'étais plus capable de lire à ce moment-là. Alors que deux jours avant, j'étais capable de lire un livre.
OK.
Fait qu'il y a comme eu une chute brutale, la vision, dans un œil. Dans un œil. Parce que maintenant, pour lire, il fallait absolument que j'aie un œil fermé. Fait que là, à ce moment-là, je me suis dit. En fait, la vision, elle avait un peu descendu, mais c'était pas un point important. Puis là, ça avait vraiment descendu dans un œil. Puis quelques jours après, mon autre œil aussi avait descendu. Fait que j'avais les deux yeux, finalement, à peu près au même niveau. Là, j'avais l'œil droit, je pense, un peu plus fort, mais à peine. Fait qu'il fallait vraiment... Tu sais, fallait que je marche proche de mon ami, mettons, tu sais, pour pas fondre dans des obstacles, des trucs comme ça. Parce que j'avais quand même la périphérie, mais j'étais loin d'être habitué. Tu sais, je balayais pas du regard pour aller chercher dans ma périphérie ce que je voyais pas. Je compensais pas par mes yeux.
T'as réussi à finir ta session de cégep quand même?
Ouais, mais là, tu sais, à partir au voyage, moi, j'étais supposé passer un mois en Espagne après le mois en Italie. Finalement, j'ai passé deux semaines en Espagne parce que je me suis dit, ben non, tu sais, là, j'ai appelé mes parents, j'ai dit, là, je pense que ça se passe. Faut appeler la neuro-ophtalmo parce que, tu sais, j'ai perdu la vision un peu. Fait que là, mes parents capotaient un peu à distance. Puis finalement, j'ai pris un vol d'urgence pour le Canada, mais je l'ai pris deux semaines après. Je me suis dit, non, je suis capable de continuer.
Puis là, ben, tu t'es rendu compte par toi-même que c'était...
Ouais, ben, la force des choses, parce qu'il y a eu une canicule. À ce moment-là, c'était une des plus grandes canicules que l'Europe avait connues depuis des années. Puis, tu sais, je me rappelais, il faisait comme 42 degrés à Barcelone. Puis ma vision, quand il fait hyper chaud, elle s'embrouille davantage. Fait que là, c'était quasiment noir là, pendant une partie du voyage. Fait que là, j'étais comme, là, j'ai atteint ma limite. Là, je pense qu'il faut que je retourne.
OK, il y a comme des circonstances qui ont même aggravé un
ouais, peu. Oui, c'est ça, parce qu'étant donné que c'est les nerfs, là, en tout cas, ce que j'ai compris, là, quand il fait un peu plus chaud, les trucs comme ça, ça peut venir affecter davantage la vision. Puis, tu sais, quand tu es au début de la maladie, tu connais rien à ça, tu te demandes vraiment, coudonc, si tu es en train de descendre à chaque jour, puis ça va-tu tomber noir. Tu sais, moi, c'était un peu le portrait que je m'étais fait. Donc, tu sais, à un moment donné, j'ai mis l'orgueil de côté, là, puis je me suis dit, bon, je vais prendre un avion pour aller à Québec.
OK. Et là, ça s'est passé comment au retour ici?
Moi, je suis revenu de voyage. Puis, tu sais, mes parents, ma famille, moi, ils s'attendaient, mes amis, ils s'attendaient à me voir débarquer de l'avion avec une canne puis un chien. T'sais. Ils s'attendaient à ce que je sois complètement aveugle.
Oui.
Puis, tu sais, c'est ça. Puis, moi, j'ai vraiment réalisé. Parce que, tu sais, moi, j'étais un peu dans le déni parce que, tu sais, j'étais comme, bon, on est en voyage, il faut que ça paraisse bien. Tu sais, je veux pas avoir l'air de la personne qui le vit mal en voyage. En tout cas, je voulais pas imposer ça au monde, là, à mon ami du moins. Là. En tout cas. Fait que là, quand je suis débarqué de l'avion, moi, je suis allé chercher mes bagages. Puis ça, c'est une histoire qui a été souvent racontée, là, parce que c'est comme un moment choc là, de mon histoire. Tu sais, je suis allé au carrousel à bagages, récupérer mon sac. Puis là, je m'étais enlevé du mode avion parce que mes parents venaient me chercher. Puis je voulais les appeler pour me dire, comme pour dire « Allô, je suis là, venez me chercher. » Puis là, j'ai appelé mon père. J'ai dit, est-ce que vous êtes là? Parce que je viens d'arriver, je viens de descendre de l'avion, j'ai mon sac. Puis il dit, ben oui, tu me regardes en ce moment, t'es en avant de moi. Oh. Puis là, il y avait comme une baie vitrée, mettons, qui séparait le carrousel à bagages du reste. Puis, tu sais, moi, je regardais mon père à ce moment-là, puis j'étais comme, OK. T'sais, puis là, j'ai vraiment réalisé, comme, ouais, que c'est pas une grande distance. Je vois plus à ce point-là, dans le fond. Fait que c'est ça. Donc, à partir de là, moi, je suis revenu à la maison. Puis, mais tu sais, j'ai pas eu de moment un peu plus noir. J'ai pas eu de moment.
Ben, c'était ma prochaine question,
ouais,
là.
C'est souvent la question qui revient, mais. Puis, c'est vraiment pas par orgueil, c'est vraiment pas par fierté, mais je l'ai pas mal vécu parce que moi, je suis. Là, je pense qu'on était à comme trois semaines, un mois, peut-être un peu moins d'un mois de la rentrée du cégep pour la deuxième année. Puis, moi, il était pas question que je fasse mon cégep plus tard. Il n'était pas question que je déplace ça. Moi, je voulais faire ça normalement. Je voulais suivre mon parcours. Fait que là, je suis rentré au centre de réadaptation à l'IRDPQ à Québec très rapidement, intensivement. J'avais des rendez-vous à peu près à chaque jour ou deux jours. T'sais, j'apprenais la télévision, j'apprenais Zoom Text, j'apprenais des logiciels d'agrandissement. On avait modifié mon téléphone avec certains réglages. J'apprenais comment transformer des documents, puis des trucs comme ça. Puis moi, j'ai fait ça en dedans de trois semaines, intensivement.
C'est ça, là,
ouais,
pour retourner au cégep.
Exactement.
Sans interruption.
Exact. Moi, c'était ça mon but à ce moment-là. J'étais focus sur mes études, focus sur je veux continuer faire ça. Fait que, tu sais, j'ai pas pris, ben, je veux pas dire pas prendre le temps, mais j'ai pas pris le temps de m'apitoyer sur mon sort, là. Même si je déteste ces termes-là, parce
ben,
que je comprends la période de deuil.
Oui, mais on pourrait simplement dire, dans le sens que, t'as pas eu besoin, t'sais, t'as pas ressenti ça non plus. T'avais exact. L'envie plus forte de poursuivre, puis...
Ben oui, exactement. Puis tu sais, je pense que c'est quelque chose qui revient aussi là, chez certaines personnes, mais tu sais, moi, c'était vraiment, tu sais, continuer, faire comme si, tu sais, ça m'affectait, mais pas plus que ça. Puis il va falloir adapter plein d'affaires et tout, mais ça, je le comprenais, tu sais. Puis je m'étais fait un peu à l'idée. Mais en même temps, je pensais pas à ça. Là, en mai, quand elle m'a annoncé ça, je me suis pas dit je vais vivre comme ça.
C'est sûr, mais plus la vision baissait, plus quand tu es rentré à l'IRDPQ, ben là, exact. Ils t'ont expliqué, dans le fond.
Oui, puis j'ai eu un super de suivi. Pour vrai, l'IRDPQ a été d'un support incroyable. Là, je veux dire, j'étais. Mais tu sais, au point qu'ils m'ont attribué, mettons, une travailleuse sociale, mettons, j'ai eu une rencontre avec, puis je ne l'ai jamais revue. Parce qu'elle était comme, bon, t'as pas besoin de soutien supplémentaire. Moi, j'avais surtout besoin d'aide technique. Je voulais comme être fonctionnel à 100%. Je voulais apprendre, je voulais me dire comment là, je vais prendre l'autobus demain matin. Là, je veux le savoir parce que dans une semaine, j'étais à l'école. T'sais, moi, c'était ça. Là.
Ben, c'est ça, parce que là, on pense, en tout cas, moi, je pense beaucoup au côté du cégep,
ouais.
Mais il y a tout l'aspect, faut que tu t'y rendes au cégep.
Ben oui. Puis, tu sais, Québec, c'est pas Montréal, on n'a pas des métros, on n'a pas... tu sais, moi, j'habite, je dirais quasiment en banlieue de Québec, là, c'est assez loin, tu sais, il y a un autobus qui passe aux heures dans mon coin. Tu sais, je voulais être sûr de pouvoir être autonome malgré tous ces obstacles-là supplémentaires, puis je voulais...
C'est ça. Et comment ça s'est passé dans les faits? Est-ce que ça s'est bien passé? Comme ta famille, ce qu'ils ont. Bon, tu dis, ils pensaient que j'allais arriver de voyage
ouais.
Avec une canne, avec un chien, tout ça.
Moi, ben, je pense que mes parents ont beaucoup réagi sur le coup quand j'étais en Europe. Fait que moi, j'ai moins assisté à ça, du moins. Je pense que le choc a été là. Mais je pense que ça s'est beaucoup atténué quand ils m'ont vu arriver, quand ils ont vu que j'étais. Puis, tu sais, ils m'ont jamais entendu dire comme. Tu sais, j'ai jamais tant parlé de ça. J'ai vite embarqué dans la normalité de la chose, puis tu sais, j'ai comme, ben, j'ai un rendez-vous à l'IRDPQ, là, je m'en vais, je faisais mes affaires, fait que tu sais, j'étais
c'est ça, ils ont
très
compris
autonome rapidement.
Eux aussi, comme concrètement, ça signifiait quoi, puis que oui. Tu le vivais quand même assez bien, puis que tu fonçais.
Exactement.
On va dire ça comme ça, je pense.
Oui, je pense que oui, puis je pense qu'ils ont embarqué un peu dans le même focus que moi, tu sais. Puis je pense que c'est de ça que j'avais besoin, tu sais, j'avais pas besoin qu'on prenne du temps pour moi, puis j'avais pas besoin, ben, en partie, mais j'avais pas besoin qu'on me pousse à rendre ça malheureux alors que pour moi, c'était pas la fin de tout. Là,
mm-hmm.
Je voulais pas qu'on mette ça comme qu'on amplifiait ça à ce point-là. Je voulais vraiment continuer puis avancer mes affaires.
Là, je vais poser une question plate parce que faut toujours qu'il y ait un moment plat dans les entrevues.
Vas-y.
Mais si tu me dis qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais est-ce qu'il y en a eu quand même des moments de découragement ou est-ce qu'il y a eu des choses que... Dans le concret, tu t'es dit « Ouais, ça, c'est comme vraiment pas ouais. Évident. Puis... »
Bien, c'est ça. Je préfère le terme « découragement ». Tu sais, des périodes de découragement, il y en a eu, là. Moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas eu de période sombre. Tu sais, je suis pas resté enfermé chez moi pendant trois mois à me dire « C'est fini ».
Non, ça...
Ça, il y en a pas.
Ça, on le sait.
Par contre, tu sais, je te cacherai pas que la première fois que tu arrives à l'école depuis, puis que tu as toujours été à l'aise avec tout, puis là, tu te rends compte à la cafétéria que tu vois plus tes amis... Tu reconnais plus tes amis dans le couloir, tu reconnais plus. sais, moi, je rentre à la cafétéria, il faut que j'appelle mes amis pour dire « Hey, vous êtes où? » Puis là, tu sais, ils me cherchent, ils peuvent même pas lever la main parce que je les vois pas. Tu sais, c'est... Puis ça, c'est lourd parce que moi, c'est ça que ma plus grande phobie à ce moment-là, c'était de perdre mon autonomie. Tu sais, de me dire « Je vais toujours dépendre de quelqu'un, je vais toujours cette chose-là. » Ça, c'était plus décourageant un peu. Par contre, j'avais vraiment un bon filet social là, à ce moment-là. Là. Je l'ai toujours d'ailleurs, puis je pense que ça m'a vraiment aidé. Mais des périodes comme ça, c'était plus dur. C'est lié aux amis, lié au fait de... on joue, on faisait des soirées jeux de société, mettons. Ben, pour moi, il fallait vraiment s'adapter. Des petits deuils comme ça, des deuils quotidiens, mettons. J'aimais cuisiner, ben là, j'étais plus capable de lire ma mesure, tu sais, des trucs comme ça. Là. Ça, c'en était des périodes de découragement. À l'école, quand on me disait, ben, il va falloir t'abandonner ce cours-là parce que le matériel pourra pas être adapté dans les temps, là, c'était un deuil pour moi parce que j'ai comme, tu sais, moi, je veux fonctionner.
Là, concrètement, c'était des choses qui étaient rendues comme difficiles, voire impossibles.
Ben oui. Puis, tu sais, quand je me suis dit, ben, je pourrais jamais devenir enseignant de français au secondaire, ou du moins, peut-être, j'aurais probablement pu, mais tu sais, je m'étais dit, pour moi, c'était quasiment impossible à ce moment-là dans ma tête. Ben, ça aussi, c'en était un. T'sais, j'ai pas choisi le droit par dépit, loin de là, mais je m'étais quand même dit, tu sais, j'aurais pas ma première option, c'est certain.
Parce que là, ce que je vais dire, ça va peut-être paraître un peu plate, là, mais j'essaye de faire quand même un parallèle.
Ouais.
C'est rare quand même, des invités qui ont perdu la vue plus tard dans leur vie, j'en ai eu quand même.
Mm-hmm.
Mais là, toi, ton processus comme d'études était enclenché, on peut dire. Tes idées de carrière étaient faites.
Mm-hmm.
Ça a, je dirais, un bon côté, ben, plus qu'un. Mais, tu sais, bon, je veux dire, au cégep, ils te connaissaient d'avant tes problèmes de vision.
Ouais.
Déjà, ça, au moins, c'était enclenché.
Oui, 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 puis il y avait des bons côtés, mais comme à ton cégep, nous, on était un petit programme, donc on était toujours la même classe dans chaque cours et tout. Fait que, tu sais, moi, j'ai été, la première journée, ben, j'ai été devant la classe, puis j'ai dit, là, écoutez, j'ai perdu la vue cet été. J'ai expliqué un peu toute la situation. J'ai dit, ça se peut que vous voyez mon écran, je vais toujours avoir un ordinateur avec moi, ça va être agrandi, vous allez vous poser les questions, je vais avoir des machines des fois pour compenser, je vais faire des essais, je vais essayer certaines lunettes, je vais avoir l'air du petit gars étrange dans le fond de la classe avec plein de machines. T'sais. Je voulais que ça soit un peu plus normal. Le cégep me connaissait, mais en même temps, je ne connaissais pas tout ce qui était service adapté, des trucs comme ça. Moi, je n'avais pas...
Non, il fallait que tu te familiarises avec tout ça.
J'avais rien qui me liait à eux. Mais tu sais, le cégep me connaissait. J'avais déjà un emploi que j'ai conservé malgré parce qu'on l'a adapté. Tu sais, j'avais déjà une bonne base de vie qu'on a juste... On l'a adapté, finalement. Tu sais, je ne me suis pas adapté à mes milieux, c'est les milieux qui se sont adaptés.
C'est ça, mais comme ils te connaissaient, puis tout ça, tu sais, je veux dire, au moins, comment je pourrais dire ça, les démarches étaient faites, puis il fallait adapter suite à ça.
T'sais. Exact. Puis je pense qu'ils me connaissaient dans le sens que, aussi, dans le sens que, moi, quand j'allais voir, mettons, tu sais, au cégep, quand j'ai dit non, je continue mon cours, il savait, même s'il me disait « ouais, mais c'est pas très réaliste », il savait que j'allais le continuer. Fait que, tu sais, il était mieux d'adapter.
Puis les gens qui étaient dans tes cours, qui te connaissaient, j'imagine que c'est moins gênant aussi de venir te poser des questions sur ta nouvelle situation.
Absolument. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours été vraiment à l'aise d'en discuter, d'en parler. Puis je pense, encore plus aujourd'hui, là, maintenant qu'il y a eu certaines entrevues, des trucs comme ça qui ont sorti pour certaines situations en particulier dans mon domaine, mais j'ai toujours été à l'aise d'en parler. J'ai toujours été... autant que j'en ai pas parlé sur le coup, quand je suis arrivé au Québec, que j'avais cette nouvelle situation-là, qu'après ça, j'en parle, j'arrête pas d'en parler. Là. Puis, tu sais, mes amis, ils ont toujours été à l'aise de venir me poser des questions, puis je leur répondais très honnêtement. Là. Puis c'est pas... tu sais, j'ai pas un ami qui est mal à l'aise. T'sais, maintenant, on le prend même en riant, on fait des blagues des fois, des trucs comme ça, c'est un peu... des gens qui trouvent ça particulier, mais tu sais, on désamorce ça beaucoup.
Ben oui, mais tu sais, d'un autre côté... Étant donné que tu es à l'aise toi-même puis que tu n'as pas eu comme de période de dépression ou de... Tu sais, je veux dire, ça aide quand même ça à...
Ben oui. Puis tu sais, moi, je m'en suis beaucoup... Tu sais, j'étais un gars d'impro, j'étais un gars de théâtre avant et tout. Tu sais, moi, je m'en ai beaucoup sorti avec l'humour puis je m'en ai beaucoup sorti... tu sais, même avec mes médecins, des fois, ils me trouvaient pas drôle, mais tu sais, moi, j'étais comme... Tu sais, des fois, je faisais des blagues, des trucs comme ça puis ça passait plus ou moins, mais... T'sais, moi, j'en avais besoin de ça, puis j'ai toujours été comme ça, puis peu importe la situation, ça a toujours été le même. Fait que, même des fois, mes amis sont plus... Je suis pas celui qui a le plus mal réagi à ma situation, on dirait. Pis c'est un peu étrange. Là. Mais j'ai moins réagi dramatiquement que certains de mes amis, que certains de mes proches.
Qui ont pris ça dur pour toi plus que...
Ouais, ben tu sais, je pense, ben sans doute mes parents, mettons.
Ouais.
C'est certain. Mais tu sais, en même temps, ça les concernait directement. Mais tu sais, même, je sais pas, même mes proches, ouais. Souvent, c'est, tu sais, souvent eux, tu sais, c'était moi qui étais comme, mais non, mais c'est pas si grave, tu sais. Alors que comme elle, c'est moi, tu sais, mais bon.
Ben, moi, ce que je voudrais dire là-dessus, ouais. Là, c'est que les gens qui ressentent le besoin de, tu sais, d'avoir un temps pour s'en remettre, puis tout ça... C'est tout à fait correct, c'est ben tout oui. à fait bien. Mais si tu le ressens pas, ce besoin-là...
C'est tout à fait correct aussi.
C'est tout à fait correct aussi, on
puis
peut
arrêter
pas...
de penser que c'est refoulé. Tout le monde me dit, tu vas le vivre un jour. Je suis comme, ben là...
Ben, comme... si jamais ouais. ça arrive un jour, tu vas te permettre de prendre un temps, puis de...
Ben oui, puis au pire, j'irai voir les personnes, j'irai voir les ressources pour ça, puis... Tu sais, je suis orgueilleux, mais pas au point de nier tout ce qui est autour de moi. Puis, tu sais, si jamais ça arrive, ça arrivera, puis tant qu'à moi, ça va être justifié, puis j'aurai pas honte de ça, du moins. Tu sais, je dis pas que ça arrivera jamais, mais pour l'instant, j'en ressens pas le besoin, puis j'en ressens, tu sais.
Non, puis c'est pas une question d'avoir honte, c'est une
Mais non,
question.
C'est ça, exactement. Mais tu sais, je dis pas aux gens que tout va bien, puis que tout a toujours plus ou moins bien été. Parce que j'ai honte de dire le contraire.
C'est
vraiment.
Ça. C'est t'sais. Pas pour faire...
Dans ma vie, excuse-moi, mais si quelqu'un peut pas se permettre d'être triste parce que tu as perdu un sens, là, je vois pas pourquoi tu peux être triste dans la vie. Genre, pour moi, c'est vraiment pas gênant quelqu'un qui prend un moment pour soi puis qui a besoin de ressources ou de quelque chose pour quelque chose d'aussi difficile à vivre. Tu sais, je vois pas les... Parce qu'il y a des gens, tu sais, des fois, par orgueil ou peu importe, qui sont gênés un peu de ça, là, mais...
Ben, moi, je trouve que ça paraît que c'est pas ça, là, dans ton cas, là.
Non, c'est ça, exact. Mais quelqu'un qui me connaît pas ou quelqu'un qui...
pourrait, oui, penser.
Mm-hmm. J'ai eu souvent quand même, ou des médecins qui veulent toujours ton bien puis qui veulent toujours prévenir. Tu sais, sont comme, oui, mais t'es sûr, pas de... Puis ils me reposent tout le temps les mêmes questions à chaque fois parce qu'ils se demandent, bon, ça a-tu changé ou des trucs comme ça. Puis ouais. C'est fin de leur part, là. Ils font bien leur emploi, tu sais.
Leur suivi puis tout
Exactement.
Ça.
Exactement. Mm-hmm. Mais c'est vrai. Je pense que c'est vrai, tu sais. Mais bon. C'est ça. C'est un combat que je livre.
Puis tu parlais d'un emploi que tu avais avant puis que tu as pu conserver. C'était quoi?
Oui, bien en fait, ben, le Tim Hortons.
Ah, le Tim Hortons.
Oui, mais c'est parce que moi, j'ai commencé à travailler au Tim Hortons assez jeune. J'ai commencé à 14 ans.
OK. Oh!
Ouais, okay. Mes parents ne savaient même pas que j'avais été porter mon CV, mais j'avais une amie qui travaillait là puis engageait jeune. Puis moi, je voulais travailler. Puis c'était pas juste l'appel du micro, là, c'était tout. Là. Je voulais vraiment. Fait que, tu sais, moi, j'avais été porter mon CV, j'avais été engagé. Tu sais, même mon employeur savait même pas que j'avais 14 ans parce que, je sais pas, j'avais l'air un peu plus vieux, puis je parlais.
Puis il posait, il dit, clairement, il demandait pas nécessairement.
Il me demandait pas mon âge. Puis c'est ça, puis finalement, j'ai travaillé de 14 ans, puis là, jusqu'à mes 18 ans, quand j'ai eu le diagnostic. Puis quand j'ai eu le diagnostic, tu sais, j'étais rendu comme superviseur, je pense. Puis, tu sais, j'ai appelé ma patronne, puis j'ai dit, ben écoute, puis mon patron, puis je leur ai dit, ben, tu sais, j'ai un problème de vision, fait que je sais pas ce que ça va faire, mais là, je rentre comme 3 semaines à l'IRDPQ, mais comme remplacez-moi pas parce que je vais revenir. J'étais comme,
okay.
Genre de quoi. Puis, tu sais, j'étais proche quand même de mes patrons.
Ben
parce
là,
que ça
faisait
loin. Longtemps. Exact. Puis, tu sais, au Tim Hortons, c'est une place qui a beaucoup de roulement d'employés, fait que ceux qui restent là longtemps, souvent, on a un bon lien avec les employeurs. Fait que, c'est ça. Puis là, finalement, tu sais, j'ai rencontré mon patron après, puis j'ai dit, ben écoute, la caisse, je suis encore capable parce que je la connaissais par cœur. J'ai dit, le jour qu'elle va changer, tu vas m'oublier parce que.
Ouais, ça va être une autre affaire.
C'est ça. Mm-hmm. Tu sais, j'étais capable de faire les breuvages, les sandwichs, les trucs de même. Mais tu sais, dès que le menu changeait, c'était de l'adaptation, mais je partais sur des bonnes bases. Puis tu sais, je m'occupais à ce moment-là des commandes, des inventaires, des trucs comme ça. Fait que tu sais, j'avais des responsabilités autres qui faisaient en sorte, tu sais, je comptais les caisses, des trucs comme ça. Fait que je pouvais quand même faire. Beaucoup sans avoir ma pleine vision. Tandis que si j'avais commencé l'emploi à zéro, là, je pense pas avoir été capable dans ce milieu-là. Ou du moins, pas aussi polyvalent. Ça, c'est certain.
Puis encore là, je vais me permettre quelque chose de plate, mais de convaincre ton employeur de t'engager, c'est une autre chose.
Oui. Ben, c'est sûr que je pense qu'au début, c'était comme, ben oui, on te connaît, on t'aime bien, puis tout, ben oui, il n'y a pas de problème,
on va essayer,
l'adapter.
Puis on va,
Mais c'est sûr que si j'avais pas fait l'affaire, peut-être qu'on aurait rediscuté. Là. Mais ça se passait bien, tu sais, vraiment bien. Puis tu sais, j'avais mes collègues qui étaient là, mes collègues depuis vraiment longtemps. Fait que tu sais, il n'y a aucune gêne à dire, comme, excuse-moi, je ne veux pas te l'affaire, tu sais, veux-tu? veux-tu prendre ma place deux secondes, je changeais de poste, je faisais d'autres choses.
Ouais, vous êtes. Vous
ouais, puis tu sais, c'est mes amis aujourd'hui, là, ma gang d'amis forts, c'est mes amis du Tim Horton depuis toujours. Fait qu'il y avait zéro gêne, c'était super. Puis tu sais, justement, j'étais superviseur, fait que tu sais, je veux pas, j'étais pas le petit nouveau, tu sais, c'était moi, en tout cas. Fait que c'était facilitant. Puis finalement, là, on a changé de restaurant et tout. On avait comme quatre Tim Hortons à ce moment-là. Puis moi, j'ai parlé à ma patronne, puis j'ai dit, ben je voudrais être comme gérant ou assistant gérant parce que j'aimerais ça faire un peu plus de bureau, un peu moins de plancher, parce que le plancher, souvent, ça fait en sorte que t'es plus dans des tâches visuelles. Tu sais, t'avais plus besoin, tu sais. C'est ça, tu sais, en tout cas.
Ben, de voir, des tâches, de voir toutes sortes de choses.
Tandis que dans la gestion, faire les horaires, faire les commencer les payes, admettons, faire des trucs comme ça, ça, c'était plus accessible pour moi. Puis je pense que j'étais rendu là parce que moi, je pensais changer d'emploi bientôt, tu sais, rendu à 18 ans. Je suis comme, bon, je vais arrêter de travailler chez Tim Horton et tout parce que c'était mon emploi étudiant. Puis là, tu sais, tous mes amis partaient un peu aux autres aussi. Puis bon. Mais finalement, j'ai dit, ben, moi, si j'étais en gestion, je vais continuer, tu sais. Finalement, j'ai continué jusqu'à mes 22 ans. J'ai été gérant de Tim, puis on en avait quatre pendant un moment. On se promenait aussi dans les Tim. J'étais.
Polyvalent d'un Tim à l'autre.
Pis... Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je faisais vraiment la gestion. Là. Fait que, j'étais autant j'étais sur le plancher au service au volant à rire au micro, mais tu sais, c'est moi qui m'occupais des horaires. Je faisais les inventaires un peu, les trucs comme ça. Fait que, tu sais, moi, je m'épanouissais. Tu sais, j'étais. Je faisais un peu de n'importe quoi, je faisais de la gestion, j'étais autonome, tu sais, je faisais mes affaires. Je travaillais quasiment temps plein pendant l'université temps plein. Tu sais, j'ai toujours été... J'ai toujours aimé le Tim Hortons, ouais.
Ça te paraît?
Ouais, c'est ça, mais c'était une belle période, là. Puis c'était une période, justement, que j'avais besoin de me sentir autonome, tu sais, j'avais besoin... puis tu sais, on me donnait de quoi pour que je sois pleinement autonome, tu sais, j'avais la gestion d'un restaurant, tu sais, moi, j'étais bien heureux, tu sais, comme je te disais tantôt, j'avais peur de plus être autonome, puis là, on me donnait, tu sais, la chance de gérer, on avait, vers la fin, je pense qu'on avait presque une centaine d'employés à tout, fait que, tu sais, c'était valorisant, je pense que je me suis, ça m'a donné confiance pour la suite, du moins.
Donc, à un moment donné, tu as décidé, finalement, de quitter quand même le Tim Hortons, et ça t'a amené vers où, ce...
Ben en fait, j'avais fait des demandes, moi, pour l'université. J'ai commencé un baccalauréat en psychoéducation à l'Université Laval après mon cégep.
OK.
Puis je me suis vite rendu compte que j'aimais la psychoéducation, j'aimais le volet social, mais je voulais aller en droit, finalement. Puis moi, au début, je m'étais dit, jamais j'irai en droit parce que c'est trop conservateur, puis avec ma vision, ça marcherait pas, je vais opter pour un milieu de relations d'aide. Puis là, finalement, j'ai commencé l'université en psychoède, puis je m'étais dit, ben on est capable d'adapter l'université. C'est pas pire que le cégep, puis on est capable. Fait que je m'étais dit, ben là, je vais m'essayer en droit pour vrai. Puis j'ai été accepté à l'Université Laval, puis à Sherbrooke. Puis je m'étais dit, à ce moment-là, ben je vais aller à Sherbrooke, je vais aller en appart, je veux me prouver que je suis autonome, là, je veux faire mes affaires et tout. Fait que j'ai quitté Québec, je me suis installé à Sherbrooke, fait que par la même occasion, j'ai quitté le Tim Hortons, enfin, après une longue carrière.
Et là, si je comprends bien, tu étais chez tes parents à ce moment-là?
Oui, j'étais chez mes parents à Québec.
OK.
Puis pour des raisons que j'ai évoquées plus tôt, là, je me suis dit, ben, je quitte tout ça pour aller à Sherbrooke, voir où ça va m'emmener.
Finalement. Et tu trouvais que de t'éloigner, ça allait être plus facile de faire la coupure? Ou
Ben, c'est parce que c'est surtout une question pratico-pratique. Là. T'sais, je m'aurais mal vu comme me prendre un appartement à Québec à 10 minutes de chez mes parents, puis payer pendant mes études et tout. Fait que, tu sais, je m'étais dit, ben tant qu'à prendre un appartement, puis être à 10 minutes de chez nous, puis payer et tout, ben je vais faire la même chose, mais ailleurs, à Sherbrooke. Puis Sherbrooke a une vie étudiante qui me semblait plus intéressante. Puis je m'étais dit, ben je vais vivre le trip université à fond. Puis, tandis qu'à l'Université Laval, je sais que j'aurais resté dans mon... Dans ma petite routine, là, j'aurais resté au Tim Hortons, puis j'aurais travaillé là, j'aurais été à l'université. Ça me prenait beaucoup de temps, Tim Hortons, avec l'université, puis je m'étais dit, avec le droit, ça va être peut-être incompatible, en tout cas.
OK, donc c'était comme un peu là, une nouvelle vie qui commençait.
Exactement,
là.
Une nouvelle vie qui commençait. Tu sais, je connaissais personne, moi, à Sherbrooke, je connaissais rien de Sherbrooke. J'ai pris mon appartement sur Internet, je ne l'ai pas visité, j'ai vraiment parti. Ma décision s'est faite à la toute fin, trois semaines avant la rentrée, je pense que j'ai... Vraiment.
Puis ça te faisait pas peur, ça, plus que ça?
Ben oui, mais en même temps, la peur m'excitait un peu, là.
T'sais, OK.
J'avais déjà pensé à Sherbrooke et tout, puis je trouvais le fun, l'idée d'aller dans une autre ville, de pouvoir revenir la fin de semaine. T'sais, en tout cas, j'avais comme ce portrait de la vie étudiante-là. Puis finalement, ça m'intéressait vraiment, ça m'interpellait. Fait que j'ai fait le saut. Puis tu sais, j'ai, j'ai fait beaucoup de téléphones avec Sherbrooke, puis même Sherbrooke semblait un peu rétractaire au début, là, aimait pas trop. En tout cas, ça a été plus difficile d'adapter l'université que le reste, mais ça me faisait pas peur non plus. Je voulais. Encore, comme dans tout, là, tu sais, il me disait non, mais c'est peut-être pas mieux, c'est peut-être mieux pas. Puis je suis comme, ben oui. Je suis allé à Sherbrooke.
OK.
Ouais.
Donc là, déménagement, appartement, tout seul en appartement?
Non, on était au début, dans ma première année, j'ai fait un an dans une maison avec quatre autres étudiants.
Okay.
On était cinq. Je les connaissais pas. Je suis vraiment tombé sur du bon monde. Là, pour vrai, j'ai adoré mon année-là. Puis, c'était comme une maison avec des chambres, là, mais c'était vraiment une maison.
OK. Ouais. Donc, un an là?
Oui, un an là. Puis après ça, ben, je me suis fait des amis dans le bac. Fait que j'ai déménagé avec un ami. Puis là, j'ai rejoint le programme coopératif. Fait que j'ai déménagé avec un ami qui était dans le programme coopératif avec moi. Donc, on avait des stages. Fait que pour pouvoir sous-louer l'appartement en même temps, pour une question pratique encore, j'ai déménagé avec un ami pour pouvoir sous-louer l'appartement en même temps. Vu qu'on avait des stages, on avait des déplacements au même moment. Donc, je suis parti en appart avec un de mes amis.
OK. Puis là, point de vue université, ton entrée à l'université, ça s'est fait. Tu disais, ça a été un peu plus difficile d'adapter l'université.
Ouais.
En termes clairs, ça a été quoi les.
Ben, moi, j'étais pas habitué. Tu sais, au cégep, c'était petit quand même l'organisation des services adaptés. À l'université, un peu plus de bureaucratie, un peu plus de. On passe d'un département à l'autre, faut parler à la faculté, faut parler à l'université directement, au service de placement, faut parler là. C'était un peu plus compliqué. Puis. On me disait, ben écoute, on n'a jamais eu d'étudiants ou à peine avec une déficience visuelle en droit. Là, on parle facultaire. Je sais qu'il y en a eu d'autres à l'université, mais on parle en faculté de droit. On m'a même répondu, ben écoute, Yannick, on n'a pas de local pour mettre une télévisionneuse.
Ah oui, à ce point-là.
Ouais,
OK.
Ouais, c'est à ce point-là. Mais tu sais, ça semblait compliqué. Ils m'ont jamais dit non, mais ça semblait bien compliqué. Puis j'ai dû appeler bien du monde. Puis j'ai dit, ben écoutez, moi, je vais m'obstiner jusqu'au bout. Là. Je sais que j'ai raison. Là. Puis il y a même un responsable de l'université qui m'a dit, mais Yannick, pourquoi finalement Sherbrooke s'est accepté à Laval? Puis là, j'ai dit, ben écoutez, là. J'ai dit, pas mal sûr qu'à chaque étudiant, vous vantez pourquoi Sherbrooke puis pourquoi pas Laval. Puis j'ai dit, vous me demandez pourquoi
l'inverse,
Sherbrooke.
Comme si t'avais fait
ouais. Puis là, il s'est senti mal. Puis là, ça a fait un. Il a tourné sur un dixième, là. Et c'était autre chose après, là. Mais tu sais, il y a vraiment un moment que j'ai fait là, pour vrai, je me demande qu'est-ce qui se passe parce qu'on me répond des choses qui sont pas normales, là.
Ben, il a vu aussi que tu.
Ouais. Puis j'ai même dit à un moment donné, j'ai dit là, vous êtes une faculté de droit. J'ai dit, je pense que ça remet en doute bien des choses de votre intégrité. J'ai dit comme sincèrement. Là. puis c'est ça. Puis je pense. Puis même quand je suis rentré à l'université, je me suis fait dire par une autre responsable, je me suis fait dire ton premier combat, ton premier débat. J'ai dit, elle a dit, d'après moi, tu vas faire un bon avocat. J'ai dit, bon, mais ça aura au moins servi à ça.
Ben, que tu te laissais pas marcher ses pieds, ben, tu oui. Te laissais pas bourrer de.
Ben oui, exact.
De puis... toutes sortes de...
Puis, tu sais, c'était faisable aussi. C'était des questions. C'est parce que je pense qu'il y avait beaucoup d'inconnus là-dedans pour eux. Puis je pense que ça faisait.
Ça faisait peur.
Ah ouais. Puis, tu sais, ils étaient bien installés. Ils avaient tout rénové la bibliothèque. Puis, eux, il n'était pas question qu'ils modifient beaucoup de choses. Puis, des trucs comme ça. C'était des trucs très, très banals, finalement. Mais c'est qu'il y avait beaucoup d'intervenants dans la même chose. Il y avait beaucoup. C'était compliqué pour rien, finalement.
Puis, au lieu de se forcer, ils essayaient de donner des réponses un peu simplettes.
Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'intervenants qui étaient bien intentionnés. Puis, ils voulaient. Mais il y a comme le système fait en sorte que c'est comme un peu réfractaire. C'est un peu. T'as des intervenants qui sont super ouverts, t'as des intervenants un peu plus fermés, t'as des intervenants que pour eux, ça va être beaucoup de travail, fait que peut-être moins.
Ouais, une charge de travail supplémentaire. C'est ça.
Puis moi, je demandais pas beaucoup. Là. mes lectures, là, je les fais toutes à la télévisionneuse. Je demande aucune transformation de documents au service adapté.
C'est ça déjà?
Ouais, déjà là, parce que moi, on me promettait des chapitres aux 2, 3, 4 semaines. Là, puis j'étais comme, ben là, il faut en lire 8 par semaine, fait que ça ne marchera pas. J'ai vite mis ça de côté, puis j'ai dit, ben écoutez, moi, je vais faire le maximum que je peux faire de mon côté, là, fait que je vous en demande le moins possible. Fait que je veux avoir le moins de rapports possible avec plein d'intervenants diversifiés pour savoir à quoi m'attendre, parce que ma date d'examen est la même que tout le monde, puis je veux y arriver. Fait que ça a été un peu plus compliqué à l'université. Et puis, c'est vraiment pas propre à l'université de Sherbrooke. Là. J'ai aussi des difficultés à l'université Laval. Je pense que c'est un peu partout là, comme ça, mais je pense qu'il suffit d'un étudiant qui ouvre la voie pour après que ça soit facilitant. Là, moi, je sais que ma télévisionneuse à Sherbrooke, il y en a une maintenant. Fait que, message à tous les étudiants qui veulent aller à l'université de Sherbrooke, il y en a une télévisionneuse. Fait que si vous répondez que non, il y en a une. Vous m'appellerez. Je connais les gens. Mais tu sais, je dis ça, mais après ce petit détail-là, là, la faculté en tant que telle de Sherbrooke m'a vraiment aidé. C'est vraiment, j'ai des contacts vraiment récurrents avec les intervenants, puis on... Puis c'est vraiment, ils sont super ouverts à tout, puis tu sais, ils m'ont déplacé des affaires dans mon horaire, ils m'ont permis plein d'affaires. Une fois que le gros était fait, là, après, j'ai un super suivi. Ouais.
C'est ça, on dirait qu'il a fallu que tu leur démontres que tu savais où est-ce que tu t'en allais.
Oui, puis que ça allait rien changer. Puis que, tu sais, puis que c'est même allé... C'est bien d'avoir de la diversité dans une faculté, puis c'est bien d'avoir... Puis encore plus une faculté de droit, je pense qu'il est supposé de représenter la population, finalement, parce qu'on va, tu sais, veut pas un avocat, ça travaille pour le peuple, ça travaille pour le monde, ça travaille, tu sais. Fait qu'il faut être représentatif. Fait que moi, je pense qu'ils ont beaucoup à gagner à prendre plus de diversité dans leur faculté.
Et là, une fois toutes ces mesures mises en place, ça s'est passé bien?
Ça s'est passé bien, même qu'au début, Sherbrooke est vraiment réputé pour leur programme coopératif qui permet des stages, parce que normalement, en droit, t'as pas de stage avant le barreau. Mais pour avoir le stage barreau, c'est bien d'avoir de l'expérience, c'est bien d'avoir de quoi sur son CV. Moi, je pense que j'avais un bon CV à l'époque, entre autres grâce au Tim Hortons. Mais moi, je voulais faire des stages pour prouver à un employeur que c'est pas vrai que parce que j'ai une déficience visuelle, je peux pas travailler. Puis là, je voulais dire, ben écoutez, la preuve, j'ai fait 3 stages en droit, puis ça a super bien été. Moi, je voulais ça. Fait que je m'étais dit, ben je vais faire le programme coop, je vais aller faire des stages, je vais aller goûter au milieu du travail, je vais aller adapter ça, puis je vais aller voir comment ça se passe. Finalement, j'ai fait des démarches pour avoir des stages. Là, ça a été un autre bien compliqué à propos de ça. Mais c'est ça. Fait que ça a bien été par-ci par-là, mais il y a eu des moments plus durs, justement, dont les stages.
Parce que là, j'imagine que c'est beaucoup de démarches, peu de...
Ben c'est beaucoup de démarches avec des... Puis les stages coopératifs, ils doivent être rémunérés. Fait que c'est pas des domaines... C'est pas des cabinets de droit social. C'est pas du droit de la personne, c'est pas du droit de la famille, qui sont peut-être plus, c'est cliché, mais sont peut-être plus ouverts à la relation d'aide, mettons. Sont peut-être plus sociales dans leur mentalité qu'un cabinet de droit des affaires qui pense à la productivité avant tout. Puis ça a été là la difficulté parce que les cabinets qui pouvaient payer des stagiaires, c'était des cabinets qui avaient des moyens, des cabinets d'affaires, des cabinets de plus grande envergure un peu, ou même des contentieux ou des entreprises qui avaient... Mais tu sais, il y en avait aussi, là, des... dans le domaine plus social, de la fonction publique, entre autres. Mais moi, je voulais vraiment aller dans un cabinet pour prouver qu'en privé, pas parce qu'il y a des mesures qui existent au gouvernement, mais en privé, on peut réussir quelque chose en étant malvoyant. Fait que là, ça a été difficile parce qu'il fallait que je fasse des lettres de présentation, il fallait que je présente mon CV, puis il fallait que j'emmène mon handicap d'une certaine manière. Il fallait que je le présente, parce que ça fait partie de moi, puis ils n'auront pas le choix
de dealer avec,
totalement. Fait que là, il est venu la question, est-ce que je mets ça dans mes lettres de présentation? Est-ce que je l'annonce à l'entrevue? Ça, c'était toute une affaire. Puis, tu sais, moi, on m'avait pas préparé à ça. Je pense, tu sais, le conseiller d'orientation de l'école ne répondrait pas à ces questions-là parce qu'il n'est pas confronté souvent à des situations comme ça. Fait que moi, je suis allé d'une expérience personnelle. J'ai fait la moitié de mes lettres avec déficience visuelle, puis la moitié, je l'étais.
Oh, j'adore ça.
Ouais. Mm-hmm. C'est bien, hein? C'est courageux.
ça permet quand même d'évaluer un peu.
Ben oui, puis moi, au début, je voulais rien savoir d'aller travailler en grand cabinet. J'avais pas ce goût-là au début. Fait que je m'étais dit, au pire, ils vont pas me prendre, puis c'est tant pis. Mais je voulais tester. Et comme de fait, sur 5 lettres que j'ai envoyées sans le dire, j'ai eu 3 demandes d'entrevue. Ça n'engageait à rien, mais au moins, ça me permettait d'aller me présenter. Puis dans les lettres que j'ai dit, j'ai eu aucune réponse. Silence total. Peut-être que c'est pas ça. Peut-être que c'est mon dossier. Même. Par contre, objectivement parlant, là, on parle de notes, on parle d'expérience de travail, des trucs comme ça. Je pense que mon dossier était soit pareil, soit sur la même hauteur, ou peut-être mieux que beaucoup de mes. Que certains de mes collègues de classe. Puis finalement, il y en a beaucoup dans mes amis qui ont eu des entrevues à des places que j'avais appliquées aussi, puis que moi, j'ai pas eu aucune nouvelle. Puis je pense, très objectivement, là, c'est pas que mon dossier valait d'être considéré au même titre qu'un autre.
Oui, mais c'était le même dossier, mis à part le fait que tu le disais.
À l'université, souvent, tu as 20 ans, tu as travaillé quand tu étais jeune à un tel endroit, puis souvent, il y en a beaucoup que je connais qui n'ont jamais travaillé aussi là, de leur vie, des trucs comme ça. Ton expérience est très minime. Là. Fait que souvent, tu t'en sors par ta personnalité et tes notes. Bien, moi, j'avais des bonnes notes. J'avais travaillé comme manager dans des Tim Hortons. J'avais géré quasiment 100 employés pendant un bout. J'avais fait un autre bac avant en relation d'aide, ce qui est bon en droit. Un autre bac, une partie de bac. J'avais un parcours diversifié. Bon, tu sais. Fait que moi, je pensais que j'avais une bonne candidature. Je pense objectivement que j'en ai une bonne. Fait que, tu sais, je comprenais pas pourquoi ils m'avaient pas pris, mais je comprenais clairement parce que c'était écrit noir sur blanc, déficience visuelle.
Ben, c'est peut-être. Ça, t'avais comme une réponse, dans le fond.
C'est ça. Peut-être. Peut-être. Je leur laisse le bénéfice du doute. Peut-être que c'est pas ça. Mais je questionne sérieusement.
Ben, on peut se permettre de dire que ça regarde mal.
Ça regarde mal. Sans mauvais jeu de mots, ça regarde très mal. Mais c'est ça. Mais parmi les cabinets qui m'ont convoqué en entrevue, il y avait le cabinet chez lequel je suis en ce moment, BCF, parce que je suis bien fier de le nommer, qui me prend en entrevue. Puis, sincèrement, dans les trois entrevues que j'ai eues, ça n'a pas été un problème parce que je l'ai annoncé en cours de route de l'entrevue. Je ne l'ai pas dit de prime abord parce que je voulais pas non plus qu'ils cherchent l'handicap. Tu sais, souvent, quand tu l'annonces avant, ben, ils vont chercher. T'sais, ils vont dire, ils me regardent dans les yeux, ils regardent ça ailleurs. Tu sais, des trucs comme ça. Je voulais paraître naturel puis je voulais dire, ben, écoutez, finalement, c'est ce que j'ai fait. Ils m'ont posé la question assez vite parce que j'avais reçu une bourse pour la diversité dans le milieu juridique. Fait qu'ils m'ont dit, ben, pourquoi la diversité? J'ai dit, ben, j'ai un handicap visuel. Fait que finalement, on a parlé à l'entrevue, mais ça s'est vite tassé de la discussion. Ils se sont vraiment pas beaucoup attardés là-dessus.
OK.
Ils m'ont dit, ils disent, on va te poser la question, qu'est-ce que ça implique pour nous? Mais c'était beaucoup, moi, je l'ai senti vraiment dans comme, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, tu sais?
Ouais.
Vraiment. Puis j'ai dit, ben écoutez, moi, vous me fournissez une télévisionneuse, puis j'ai dit, encore là, je vais fournir la mienne au début pour les stages, mais on verra aussi après. J'ai dit, moi, il me faut un logiciel d'agrandissement sur mon ordinateur, une télévisionneuse, puis j'ai dit, pas mal sûr que je vais être capable de vous rendre les mandats dans le même temps que tout le monde, parce qu'en ce moment, je fais mes examens en même temps que tout le monde, je n'utilise pas mon temps supplémentaire ou à peine, des trucs comme ça. Puis ils m'ont dit, ah, bon, ben, c'est juste ça, c'est juste ça. Puis après ça, on a parlé de ce que j'aimais faire dans la vie, de ce que je faisais, de ce qui. On a parlé comme une entrevue bien normale. Puis j'ai eu la réponse après que j'étais pris premier dans la liste, mettons. Fait que c'est une bonne affaire. Mon autre entrevue que j'ai eue, j'ai été premier aussi. Je pense que ça m'a aidé finalement parce que je l'ai tellement expliqué comme étant une force puis pas une faiblesse. Puis que ça m'a tellement amené, puis ça m'a amené de la maturité. Puis j'ai fait telle affaire. Puis, tu sais, oui, mon CV était beau, mais il était encore plus beau maintenant que tu savais que j'avais tout fait ça en plus d'avoir une déficience visuelle.
C'est ça, ben oui.
Mais tout est dans la manière de l'emmener, je pense.
C'est sûr. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est bien de se poser la question.
Ben oui, exactement.
Mm-hmm.
Puis c'est ça. Finalement, j'ai eu mon stage là. Ils m'ont signé pour le barreau. Fait que j'ai mes trois stages là. J'ai mon barreau de garantie. Après, fait que tu sais, je me creuse plus la tête là, pour cet enjeu-là. Puis tu sais, là, ça a sorti aussi dans des médias comme Droit Inc., qui est un média en droit, là. Ça a sorti aussi à Radio-Can, on en a parlé à Radio-Canada, donc, tu sais, je pense que ça l'a sensibilisé un peu le milieu, puis ça, je suis bien content de ça. Tu sais, j'ai eu beaucoup de commentaires d'autres cabinets qui m'ont écrit pour me dire comme « Merci, on avait besoin de ça, puis c'est au plaisir de te rencontrer », puis j'ai eu des parents d'enfants qui voulaient être avocats, j'ai eu des jeunes dans d'autres milieux aussi, là, qui pensaient conservateurs, puis qui se sont dit « Ben là, comment je l'apporte en entrevue? » Tu sais, je connais un étudiant qui m'a appelé, qui m'a dit « Ben écoute, moi, je suis sourd. » Puis tu sais, il me parlait. Puis il est comme « Comment je devrais l'emmener? Je dois-tu l'emmener au début? » Si j'ai pas la science infuse, je sais pas. Il n'y a pas de recette miracle. Mais j'ai dit « Dans tous les cas, présente-le pas comme une faiblesse. Présente-le comme une force. » Parce qu'eux, ils ne savent pas, ils connaissent pas ça. Tu sais, des petites pistes. Puis on jasait de ça.
C'est que t'es devenu comme une source un peu de partage de ton expérience?
Ben je pense que oui, puis c'est super bien, puis en même temps, moi, ça me fait plaisir parce que c'est tellement... Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens sur les bancs d'école qui n'osent pas parler. Tu sais, quand ils disent, ben non, on peut pas te... c'est peut-être mieux d'aller finalement à l'autre université, ben ils vont dire, ah, ben oui, tu sais. Mais comme il y en a beaucoup qui n'oseront pas dire, ben non, mais tu sais, j'ai les mêmes droits que tout le monde à l'autre, tu sais, puis j'ai le droit de faire ça, puis vous me devez... En tout cas, il y a beaucoup de gens qui ne parleront pas. Puis, tu sais, au nombre de fois, si j'avais dit, tu sais, des cours, là, des fois, c'était comme, ah, tu peux pas prendre ton cours parce que là, le matériel n'est pas adapté. Ben là, ça va aller à l'année prochaine. Il va falloir que tu prennes ton cours. Il va falloir que tu étires ton cégep d'un an. Ben non, ça ne marchera pas comme ça.
Ils se rendent pas compte que étirer son cégep d'un an.
Ben, peut-être que c'est ce qu'on veut, mais peut-être que, tu sais, moi, attendre un an pour reprendre un cours parce que perdre mon réseau, mettons, pas suivre en même temps, être dans une classe que là, je connais plus personne, qu'il n'y a plus personne pour me dire « Hey, c'est écrit telle affaire au tableau. » Tu sais, pour... En tout cas, Puis souvent, ça fait la différence entre comme je vais continuer à l'université ou bien non, je vais comme arrêter ça, je vais trouver autre chose. Ou, en tout cas, fait qu'il y a beaucoup de gens, d'après moi, qui ne parleraient pas, qui sont plus réservés, puis veulent pas. C'est bien correct, là. Mais je pense que, tu sais, moi, j'ai jamais eu peur de dire comme, ben voyons, c'est quoi le problème? Comme, expliquez-moi, parce qu'il me faut une méchante bonne raison pour que j'accepte ça, tu sais, finalement. En tout cas, c'est bien des choses comme ça, là.
Ben, j'adore ça. J'adore bon. Ça, quelqu'un qui a pas peur d'expliquer, qui a pas peur de foncer, puis qui a pas peur de croire aussi en...
Ouais.
Au départ, je pense qu'il faut croire en ses capacités.
T'sais. Ben totalement. Puis quand tu y penses, bien que tout, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Il n'y a pas... Parce qu'au bout de la ligne, qu'est-ce qui va te bloquer? C'est juste quelqu'un d'autre. C'est pas... Le système peut être changé. Je comprends que des fois, il y a plein de barrières à plein d'endroits, mais tu peux adapter parfaitement à quelque chose. Je comprends qu'il y a des choses qui ne se font jamais. Je comprends que je ne serai pas chirurgien cardiaque. Là. Mais comme... Tu me veux pas en train de réparer ton cœur avec des tu me veux pas avec un scalpel dans les mains, là. Mais il y a tellement de possibilités qu'on se... Tu sais, même moi, là, je me suis dit, hey, je serais jamais enseignant de français, mais c'est très possible. Ça se ferait, là. Ça. Fait que, en tout cas, je
pense... c'est ça prend... Faut au début, tu n'étais pas du tout... conscient, disons, de ce qui était faisable ou infaisable.
Ben, exact. Tu sais, j'ai vraiment pas la prétention. Puis ça, je me suis vraiment... Tu sais, même quand l'article de Droit Inc. est sorti, là, sur... le titre était... J'ai même pas peur de le dire, il était épouvantable. C'est marqué « Un futur avocat aveugle ». Mais moi, j'ai appelé tout de suite, puis j'ai dit « Je vous ai dit de pas dire aveugle », parce que moi, je veux pas que la personne complètement aveugle lise ça, puis fasse comme « Ah ben oui, mais lui, il l'a eu facile, mais tu sais, il se prétend aveugle, mais il est malvoyant ». Tu sais, je voulais pas qu'il y ait cette... Dans le sens que je comprends que ma situation a peut-être été plus facile, mettons, que quelqu'un avec une situation qui demande encore plus d'accommodement ou des trucs comme ça. Mais pour moi, c'est important de le rectifier. Puis, fait que, tu sais, j'ai pas la prétention de dire que c'est toujours facile pour tout le monde puis qu'on est tous au même. Tu sais, moi, je pense que le fait que j'ai la périphérie puis que je me déplace sans canne, sans chien, ça enlève déjà là un stéréotype que les gens ont en te voyant. Tu sais, ça enlève. Tu sais, je pense que.
Ouais, clairement, c'est sûr. Hein?
Tu sais, c'est ça. Fait que. Fait que c'est ça. Je veux juste pas dire que tout est facile, mais dans tous les cas, tout peut être adapté, tu sais. Je pense. En tout cas, j'ai vraiment la conviction de...
C'est que la finalité des études, ça s'annonce bien, le dernier stage?
Ben ça s'annonce bien dans le sens que j'aurai pas d'autres entrevues faire, puis à me creuser la tête.
Pas trop de démarches.
Oui, tu sais, j'adore le milieu que je suis, puis j'ai vraiment un milieu de travail exceptionnel, puis j'adore ça. Donc, oui, je pense que pour la suite, c'est que du positif, pour l'instant du moins. On verra.
Et on va être obligé de finir
à
un moment donné.
Ouais, j'ai parlé, hein, ça n'a pas d'allure.
Mais ouais. T'as parlé, mais pas pour rien dire, hein, comme on peut dire.
Ah oui,
parce
c'est
que
bien quand même. Hein.
Je pense que tu as transmis des messages très importants pour les étudiants qui sont en cours d'études ou qui veulent poursuivre des études. Souvent, on se demande, tu sais, les jeunes, ils étudient dans quoi, qu'est-ce qu'ils font, comment ils réussissent. Je pense que forcément, on a comme des pistes de réponse aujourd'hui avec ton entrevue.
Ben oui.
Ton expérience peut guider plusieurs personnes, mais je pense qu'il faut croire en soi, il faut croire en ses capacités en premier lieu. Comme tu as dit, je pense, puis c'est bien important, le handicap, il faut le présenter comme étant quelque chose de positif et non pas quelque chose de négatif qui va être compliqué pour l'employeur, compliqué pour...
Ben oui. Puis ce que je disais souvent, même surtout aux parents, là, parce que souvent, c'est les parents souvent vont dire, ben, t'es peut-être mieux d'aller dans ça, ou des trucs comme ça, mais ce que je disais, c'est, votre enfant, là, le milieu va s'adapter à votre enfant, mais demandez pas à votre enfant de s'adapter au milieu. Tu sais, genre... qu'il fasse ses choix, puis le reste va suivre. Là. Ils n'ont pas le choix de s'adapter.
Et puis toi, Yannick, à part les études, là, qu'est-ce que tu fais pour comme passe-temps? Qu'est-ce que tu...
Mon stage. Non, mais juste ça, parce que là, je suis en plein dedans, puis c'est des stages qui sont demandants quand même. Mais tu sais, je suis tellement entre Sherbrooke, Québec et tout, que quand je reviens à Québec, mon passe-temps préféré, c'est être avec mes amis, puis tu sais, passer du temps avec mon monde et tout. Mais comme je disais, je ne suis pas un sportif, fait qu'on élimine tout ce qui est sport. Je suis très j'aime bien la lecture, j'aime bien le théâtre, je suis un gars plus d'art, mettons. Fait que c'est beaucoup des activités sociales avec des amis, des sorties comme ça, mais C'est ça. Donc,
tu disais qu'hier, tu avais été dans la grande roue, dans la grande malgré roue. La pluie. Puis
oui,
que...
ouais, j'étais mon touriste là à Montréal, mais c'était la fête d'une amie. Puis là, en tout cas, on s'est prévu toute une journée, puis on a fini ça sa grande roue. On voyait rien, il faisait noir, gros brouillard, mais on était des amis dans dans la grande roue. On s'est fait du fun pareil. Mais c'est ça, fait qu'on a profité de Montréal.
Et juste pour revenir avec les études, tu disais, ouais. Moi j'ai lu tous mes textes à la télévisionneuse, ouais. Tu lis vite à la télévisionneuse quand même?
Je lis vite à la télévisionneuse. Les gens n'y comprennent rien. Mais tu sais, on s'habitue vite, là, mais... tu sais, je lis même pas en... Tu sais, des fois, c'est sûr, un texte vite fait, je vais lire en audio. Mais, tu sais, rechercher dans un code civil, c'est comme un dictionnaire, là. Ça se fait pas... Tu sais, faut flipper des pages tout le temps, faut chercher. Ou ben non, mes textes, à tour des jugements, ben on passe souvent d'une section à l'autre et tout. Fait que la navigation est moins évidente en audio, est moins... En tout cas, moi, j'ai toujours été habitué à la loupe en raison souvent des services adaptés qui sont très peu adaptés parfois.
Qui sont lents,
des fois. Ben, c'est ça, tu sais. Puis quand, mettons, j'étais en littérature, ben on lisait un roman... à courte échéance, ben moi, je pouvais pas attendre 3-4 semaines un chapitre, c'est impossible. Fait que ça, j'ai toujours été habitué à la télévisionneuse. Fait que mon plateau, là, il est mieux d'être bien huilé parce qu'il se promène.
Il se fait aller.
Puis tu sais, quand on lit une trentaine de jugements par jour là, dans une journée, là, et tout, ça va vite. Là. Mais oui, je suis capable de lire très vite. J'ai pas chronométré là, combien de mois à la minute. Je sais qu'on l'avait fait à l'RDPQ, mais... Il va falloir le refaire parce que je suis encore meilleur aujourd'hui, je pense. Mais c'est ça. Mais oui, exactement, parce que on se le cachera pas. Des fois, on charge cher hein, dans le milieu du droit. Fait que je vais rentrer dans l'argent des clients. Là. Je vais faire ça vite. Pas leur coûter trop cher non plus. Non, mais c'est ça.
T'as une belle conscience sociale, en plus.
Mais oui, voilà. C'est ça. Hein? Mais oui, mais c'est sûr.
Hey, j'ai juste un mot, puis c'est même pas un vrai mot, mais waouh, tu sais, moi, ça m'impressionne.
C'est un mot.
Ouais.
Parce qu'on le connaît, le mot.
En tout cas, on l'utilise.
Oh, oui, on l'utilise.
Et ça m'impressionne, sérieusement. Je suis fasciné. Je trouve que c'est vraiment un beau modèle à suivre, plein d'inspiration à en tirer de ton parcours.
Ça fait plaisir à entendre.
Et merci encore plus de t'être déplacé, parce que, bon, t'es très occupé, hein, puis...
Mais c'était pas pour toi, c'était pour la grande roue que j'ai à Montréal, là. Une activité à faire une fois dans sa vie.
Alors, même si vous voyez pas du tout, vous pouvez aller faire la grande roue pareil, parce qu'il y en a qui voient pas même si...
Ah oui, puis j'avais des amis totalement voyants, ils faisaient totalement noir, puis on a eu bien du fun. Peu importe. C'est pour tout le monde.
En tout cas, un gros merci, puis tout le succès dans le futur. Et
merci.
Un petit peu, ça prend un petit peu de chance, mais je pense que ça prend beaucoup de bonne volonté aussi. Puis je pense que tu nous as démontré que tu en avais à revendre. Alors,
à revendre. À revendre.
un gros merci.
Bien, merci à toi de l'invitation.
Écoutez Connaissez-vous avec Martin Chouinard, collaborateur bénévole. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Présentatrice, Katia Darèche. Un immense merci à l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'aux autres entreprises et organismes de nous prêter des locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Pour connaître les dates de nos prochaines émissions ainsi que nos invités à venir, nous vous invitons à vous abonner à notre infolettre et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous faire part de vos questions, commentaires et suggestions en passant par notre site Internet au www.martinchouinard.com. Avant de vous quitter, il est important de vous rappeler que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À la prochaine!